En admiration devant la grandeur de la création, on peut méditer le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu.
Le ciel raconte la gloire de Dieu. Toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit le fait connaître à la nuit qui la suit. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de parole, aucun son ne se fait entendre. Mais leur message parcourt toute la terre et se répand jusqu'au bout du monde. Là-haut, Dieu a planté une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci est comme un jeune marié qui sort de sa maison. Il s'élance comme un champion heureux de courir sur la route. Il se lève à un bout du ciel, il termine sa course à l'autre bout et rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs, il donne la sagesse aux ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes, elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière, ils permettent de voir clair. Le respect du Seigneur est une très belle chose, elle reste sans cesse valable. Les décisions du Seigneur sont vraies, elles sont toujours justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or pur. Elles sont plus délicieuses que le miel le plus doux. Aussi tes décisions m'avertissent, moi, ton serviteur. Si je les garde, j'aurai une belle récompense. Mais qui peut connaître ces erreurs ? Pardonne-moi les fautes que je ne vois pas, éloigne-moi des orgueilleux, qu'ils n'aient aucune influence sur moi. Ainsi je serai sans défaut, on ne pourra pas m'accuser de fautes graves. Qu'elles te fassent plaisir les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Seigneur, mon solide rocher, mon défenseur.
Voilà, bienvenue à chacune et à chacun. Bienvenue tout particulier à Philippe Anchaud et à sa famille, à Heidi, Elliot et Laura, leurs enfants. Donc Heidi, c'est son épouse. Alors vraiment, toute grande bienvenue à vous tous, au nom de nos Seigneurs Jésus-Christ, et qu'il soit présent parmi nous. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent pour la première fois. Est-ce que vous osez lever la main ? À part vous. Non, ben, des habitués, donc je vous souhaite aussi une cordiale bienvenue. Nous sommes en famille, et c'est la famille mérinoise qui est intégrée dans la famille des chrétiens du monde, et je trouve que c'est super de pouvoir se rencontrer et de vivre ce culte, ce temps avec Dieu. Merci aussi aux enfants, alors on verra, peut-être il y a un petit quelque chose pour vous après, on va voir, vous êtes d'accord ? J'ai mon sac de surprise, j'ai amené avec moi. Alors je vous propose que nous nous recueillions dans la présence de notre Père. Prions. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce temps où nous pouvons vivre en communauté, en famille, cette famille mérinoise. Et Seigneur, cette famille qui s'intègre dans les milliers de familles qui te célèbrent aujourd'hui. Et Seigneur, nous ne voulons pas vivre ce culte pour toi, mais le vivre vraiment avec toi, Seigneur. Que tu sois présent parmi nous, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous encourager, Seigneur, qu'on puisse recevoir une parole de toi. Alors Seigneur, j'aimerais te remettre Philippe et sa famille. Merci Seigneur de les accueillir parmi nous. Merci aussi de lui donner les mots qui seront de ta part. Et Seigneur, nous voulons le vivre avec toi Seigneur, et c'est vraiment chouette de pouvoir être ensemble, de pouvoir aussi être l'expression de l'amour que tu as pour nous. Et Seigneur, nous voulons te remettre aussi ceux qui pour aujourd'hui n'ont pas pu être présents ou qui sont pour des raisons de maladie ou autres. Et Seigneur, nous voulons aussi te les remettre là où ils sont. Et Seigneur, que tu les bénisses aussi, comme je suis sûr que tu vas nous bénir, nous tous, aujourd'hui. Amen. Alors voilà, tout d'abord, les enfants, j'ai mon chapeau et je vais aller chercher mon sac à surprise. Mettre là. Merci, Valin. Allez, lancez les ballons, que ça parte dans l'église. Voilà. Vous avez vu comme ils se déplacent avec douceur, les ballons ? Je vois qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui les poussent, il y a des personnes qui les jettent. Puis ces bulles alors, elles sont où ? Elles sont où les bulles ? Tournez-vous pour les bulles. Voilà. Voilà les deux garçons, allez chercher les ballons maintenant. Voilà, Robin et Naïla, fermez les bulles et puis vous allez chercher les ballons aussi. Il n'y a pas un sixième enfant dans la salle parce qu'il y a six ballons. Voilà, allez chercher les ballons. Voilà. Ce serait mieux si j'étais en bas. Alors vous avez vu, les ballons, ça part gentiment, ça vole, et puis après on peut les relancer, ou bien on peut les attraper. Et puis, par contre les bulles, hein, vous avez vu, ça part aussi, mais dès qu'on les touche, ça disparaît. Et je crois que dans la parole de Dieu, il y a des choses qui viennent nous frôler. Alors si on connaît, si on comprend pas, ça repart, on en lance de l'autre côté. Par contre, si on comprend, on peut les attraper. Et regardez ce qui est marqué sur vos ballons. Vous arrivez à lire ?
Espèce.
Non.
Espérance.
Espérance.
Foi.
Et puis il y en a encore un.
Amour.
Voilà. Espérance, foi et amour. Et quand, par exemple, vous êtes à l'école du dimanche, qu'il y a vos moniteurs qui vous expliquent des choses, des fois, vous n'êtes pas sûr de tout comprendre non plus, mais des fois, vous comprenez une parole qu'ils vous disent, que Dieu vous dit. Donc, il vous explique la Bible, il vous explique quelque chose, et vous comprenez cette parole, et c'est comme si vous avez attrapé le ballon. Quand vous ne comprenez pas, hop, le ballon, il s'en va, il revient, puis peut-être il revient, et puis à ce moment-là, vous comprenez, et la parole de Jésus, c'est comme un ballon qu'on attrape, où il y a un petit mot qui nous explique qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui ? Alors, ce sera aussi un petit peu le thème de notre culte, c'est d'avoir quelque chose qui nous, tout à coup, qu'on comprend. Tout à coup, ah super, on a compris. Il nous a dit une explication, il nous a dit une histoire, il nous a expliqué quelque chose dans la Bible, puis tout à coup, on a compris. Ça veut dire qu'on a gardé le ballon avec nous. D'accord ? C'était un petit peu l'animation. Par contre, les bulles, vous avez vu les bulles, on essaie de les attraper, et puis ça disparaît. Il y a d'autres choses dans la vie qui sont là. Et puis finalement, n'ont pas beaucoup d'importance. Mais le ballon, ce que Dieu nous dit, quand on attrape le ballon, c'est quelque chose qui peut rester dans notre cœur. D'accord ? Alors je vous propose peut-être qu'on continue avec la louange. Alors je vais demander à nos amis musiciens de nous rejoindre. Et puis je vais ramasser les ballons pour les remettre dans mon panier à surprise.
Bonjour, oui, on peut se lever, s'il vous plaît.
Un chant célèbre, les yeux se tournent vers.
Seigneur Jésus, c'est toi que nous accueillons, c'est toi qui es le centre, c'est toi qui es parmi nous. C'est tout ce que nous désirons, c'est que tu sois au milieu de nous, c'est que tu sois dans le cœur de chacun. Tout ce qu'on veut, c'est vivre avec toi, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui as tout créé, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as donné une nouvelle vie, c'est toi qui est descendu parmi nous, c'est toi qui as donné ta vie, c'est toi qui as tout fait. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Seigneur Jésus, ce que nous voulons, c'est entendre ta voix, c'est te dire notre amour, c'est vivre pour toi. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Le prochain chant, je le revendique, il est super vintage et il est super beau. Vous savez, dans Jean 3, il y a plein de belles choses dans Jean 3, je vous invite à le relire sur l'arrière de la voiture de Roger Sewell, c'est écrit Jean 3, 16, paf! Vous irez lire ce que c'est si vous ne vous souvenez pas bien. C'est une des plus belles paroles de la Bible. Puis un petit peu avant, dans Jean 3, il y a cette fameuse parole qui dit, puis c'est une des premières qui a touché mon cœur d'enfant à l'époque, c'est pour rentrer dans le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Et c'est difficile à se dire quand on se retourne, oh, je suis à la retraite, ou j'approche méchamment de la retraite, ou bien j'ai la pompe qui commence à lâcher, ou bien je ne sais plus où j'en suis. Naître de nouveau, ça signifie quoi? Et puis quand j'ai déjà derrière moi plein d'années de vie, et des échecs, et des belles choses, et etc., naître de nouveau, ça veut dire quoi? Ben, alléluia, le Seigneur, il nous offre de naître de nouveau. Puis si tu n'es pas né encore de nouveau, c'est super simple. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est aussi la Bible qui le dit. Alors je sais, les moins de 25 ans, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître le prochain chant, mais les anciens, on va vous l'apprendre. Tu peux naître de nouveau. Je vous propose d'accueillir le Seigneur, lui adresser vos prières. Seigneur, t'es bon, t'es magnifique, c'est toi qui changes tout. C'est toi qui nous rencontres, c'est toi qui nous accordes ce moment. J'aimerais te remercier pour la paix que tu mets dans nos cœurs. J'aimerais te remercier parce qu'au milieu de la tempête, au milieu du désarroi, t'es la main qui nous rattrape. T'es la main qui nous saisit, qui nous garde. Béni soit ton nom, Jésus.
Merci aux musiciens. Alors les enfants, vous allez pouvoir rejoindre l'école du dimanche. Alors attrapez bien vos ballons, hein, les histoires, écoutez bien ce que vont dire vos moniteurs. Mais avant que vous partiez, j'ai envie de prier pour vous, d'accord ? Oui Seigneur Jésus, nous aimerions remettre nos enfants, tous les enfants qui vont aller à l'école du dimanche. Et Seigneur, que tu les bénisses aussi, que par ce ballon, ils puissent garder une parole de toi. Comme nous allons aussi nous garder une parole de la prédication de Philippe. Alors Seigneur Jésus, que tu bénisses les enfants, que tu bénisses les moniteurs, Seigneur, et qu'ils puissent vraiment être dans la joie et que tu puisses vraiment aussi dire un petit mot de ta part, qu'ils puissent comprendre quelque chose de ta part. Alors Seigneur Jésus, nous voulons les remettre en ton nom. Amen. Voilà les enfants, je vous laisse rejoindre vos moniteurs. Et puis je vais appeler André et Bernard pour la lecture des textes qui vont servir à la prédication.
Alors nous lirons dans Actes 24. Je laisse un peu de temps pour les chercher si vous voulez. Actes 24, c'est Paul à Césarée devant le gouverneur Félix. Un court préambule pour placer le récit dans son contexte. Il y a conspiration contre Paul. Les Juifs, les pharisiens en tête, complotent de le faire mourir. Le général romain Lysias prend parti pour Paul et, pour sa sécurité, pour le protéger de la vindicte populaire, il le fait transférer de Jérusalem à Césarée. Lysias informe le gouverneur Félix, qui est en poste à Césarée, de la situation et lui demande d'entendre Paul. Oui, Félix est d'accord, mais il faut que ce soit en présence de ses accusateurs. Alors commence notre chapitre 24. 5 jours après l'arrivée de Paul à Césarée, le souverain sacrificateur Ananias y descendit avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertulle. Ils portèrent plainte auprès du gouverneur Félix contre Paul. Celui-ci fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. D'abord, il s'adresse à Félix. « Très excellent Félix, tu nous as fait jouir d'une paix profonde et les réformes faites à cette nation par ta prévoyance, nous les accueillons en tout et partout avec une entière reconnaissance et gratitude. Mais pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un moment dans ta bienveillance. Nous avons trouvé en cet homme une peste qui provoque des disputes parmi tous les Juifs du monde. Il est le chef de la secte des Nazaréens. Il a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons saisi. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias est survenu et avec une grande violence l'a arraché de nos mains. Lysias a ordonné à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même l'interroger et prendre connaissance de tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs approuvèrent les dires de Tertulle en déclarant qu'il en était bien ainsi. Après que le gouverneur Félix lui eut fait signe, Paul prit la parole.
Je sais que, depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation. C'est donc avec confiance que je présenterai ma défense. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, à discuter avec quelqu'un ou bien à provoquer un soulèvement de la foule. Et ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je le confesse devant toi, je rends un culte au Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent la secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et j'ai en Dieu cette espérance. Et ils ont eux-mêmes cette attente qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu faire des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors qu'ils m'ont trouvé, moi qui m'étais purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. Mais quelques Juifs d'Asie, ce serait à eux de se présenter devant toi et de m'accuser s'ils ont quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel délit ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit uniquement de cette parole que j'ai criée au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous.
Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les renvoya à plus tard et dit « Quand le tribun Lysias viendra, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul tout en lui laissant une certaine liberté et sans empêcher les siens de lui rendre service. Quelques jours après, Félix revint avec sa femme Drusille qui était juive, et il envoya chercher Paul. Il l'écouta au sujet de la foi en Christ Jésus. Mais comme Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix, effrayé, lui dit « Pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. » Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent pour sa libération. C'est pourquoi il l'envoyait chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Voulant s'assurer les bonnes grâces des Juifs, Félix laissa Paul en prison.
Je vais prier pour Philippe. Oui, Seigneur Jésus, nous aimerions te remettre Philippe pour qu'il puisse avoir tes paroles dans sa bouche. Alors, Seigneur Jésus, que tu le bénisses, que tu lui donnes ta paix. Et Seigneur, que devant cette famille, Seigneur, il puisse vraiment parler en ton nom et Seigneur, vraiment en paix. Alors, Seigneur, nous voulons te le remettre en ton nom, au bon nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci, Claude. Bonjour à chacun, chacune. Heureux de vous rencontrer. Je vais reprendre et adapter quelques paroles que l'on trouve dans Job, Jusqu'à présent, mon oreille avait entendu parler de vous, et aujourd'hui, mon œil vous voit, et mon œil frétille. Vous êtes beaux et belles, je suis vraiment heureux de faire votre connaissance, d'être là en famille. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le groupe de recherche pastorale, puis le conseil avant cette étape de ce matin. Je ne viens pas en complète inconnu, déjà parce que nous sommes frères et sœurs du même Dieu. Et puis, il faut que je vous fasse une confidence. Ma femme a grandi à 200 mètres d'ici. Ça a bien changé depuis. Ça s'appelait à l'époque le chemin de la planche. Il y avait des pommiers, des poiriers, il y avait même des poules dans ton jardin. Il me semble que les pommiers se sont transformés en immeubles relativement majestueux. Mais enfin, on connaît un peu le coin. Et c'est un plaisir d'être là ce matin avec vous. Merci pour votre accueil. Je me réjouis tout à l'heure de faire un peu mieux connaissance avec les uns et les autres. Le texte que nous avons lu est un texte qui m'a sauté aux yeux. Je me suis demandé pourquoi Luc, l'auteur du livre des Actes, y consacre un chapitre entier alors qu'il y aurait tellement de choses à dire sur tant de rencontres au fur et à mesure du développement du livre des Actes. Il y aurait tellement de trucs à dire sur la mission mondiale, sur la vie des églises, sur l'impact de l'évangile dans la vie des uns et des autres. Et Luc décide de consacrer un chapitre entier, et merci d'avoir pris le temps de le lire, à cette rencontre. Un chapitre entier à une rencontre. L'évangile au centre, une occasion manquée, une interpellation forte pour nous aujourd'hui encore. Quelques mots sur les personnages en présence. Elle, d'abord. Elle, c'est Drusille. Drusille est belle. Drusille, c'est une princesse. Drusille, elle fait partie de la haute. Lui ensuite, Félix. Félix, à force d'intrigue et de volonté, est parti d'une origine toute modeste pour devenir le gouverneur d'une grande province romaine. Félix, il tient en main l'armée, la justice, les impôts. Il est le représentant direct de l'empereur romain lui-même. Le mariage entre Félix et Drusille, c'était un mariage mixte. Elle était juive, lui était païen. Mais dans ce contexte, ce mariage mixte ne gênait personne. Si Félix et Drusille pratiquaient leur religion de temps en temps, c'était plutôt pour la forme. C'était plutôt pour rester dans le coup, pour ne pas être en décalage avec la société dans laquelle ils vivaient. Mais ce qui comptait pour eux, c'était le pouvoir, le luxe, le succès. Nous dirions un couple moderne. Nous dirions un couple bling-bling, tout à fait digne de figurer dans les meilleures feuilles de Paris Match ou de l'Illustré. Et en l'an 57, voilà que Félix et Drusille ont eu la chance de rencontrer l'apôtre Paul. Et c'est cette rencontre que nous rapporte le chapitre 24 du livre des Actes. Comme dit, dans les chapitres 21 à 23, nous découvrons que Paul a failli être lynché dans la cour du temple à Jérusalem. La garnison romaine lui a donc sauvé la vie et a décidé de l'envoyer à Césarée devant le gouverneur Félix pour le mettre à l'abri d'un attentat qui autrement aurait pu lui coûter la vie. Et il y a donc eu une première audience devant Félix. Puis, il y a eu une rencontre privée parce que Drusille, la femme de Félix, voulait aussi voir Paul, nous dit le verset 24. C'était qui Félix ? Alors là, ne croyez surtout pas l'avocat Tertulle. L'avocat Tertulle qui parle de la sage administration de Félix, de ses réformes, de sa sollicitude pour le peuple, de la paix parfaite qu'il a instaurée, verset 2. Mais ça, c'est de la flagornerie. Ça, c'est de la lèche. L'avocat Tertulle, c'est un faillot de première. Il est visiblement doué pour la flatterie et les fake news, mais voilà quelqu'un qui n'est pas intéressé par les faits objectifs. Les historiens de l'époque nous disent, eux, que Félix, c'était un tyran de la pire espèce. Par exemple, les livres d'histoire ont retenu que Félix a obtenu son poste grâce à l'appui du grand prêtre juif, un nommé Jonathan. Mais quand ensuite Jonathan a essayé d'influencer Félix sur le plan politique, Félix a payé un tueur à gages pour s'en débarrasser, purement et simplement. Ici, en acte 24, il nous est dit qu'il a gardé Paul en prison parce qu'il espérait se faire de l'argent sur son dos, verset 26. Il l'a gardé en prison parce qu'il espérait se faire de l'argent sur son dos. Alors en matière de paix parfaite, comme disait Tertulle, on peut dire qu'il pouvait faire mieux. Il y a eu tellement de troubles, tellement d'émeutes que Félix a fini par se faire renvoyer à Rome, j'y reviendrai. Les Juifs avaient donc à son égard la plus grande gratitude. C'est donc pour cela qu'il y a eu tant d'émeutes à Césarée, qu'au bout du compte, ils ont demandé à César de le destituer. Belle reconnaissance, en effet. Et son mariage avec Drusille, alors ? L'histoire profane nous dit que Félix a eu comme femme trois reines. Je ne sais pas si Drusille était la première, la deuxième ou la troisième, ou si Félix a eu deux ou trois femmes en même temps. Mais je sais qu'à partir du moment où Félix a été séduit par la beauté de Drusille, il a envoyé un magicien cypriote du nom de Simon pour la convaincre de quitter son mari légitime et de venir le rejoindre. Donc, dans la vie publique, comme dans la vie privée, Félix, c'était un homme sans scrupules. Un homme qui ne vivait que pour sa pomme, que pour lui. Qui était Drusille ? Félix était donc romain. Drusille, elle était juive. C'était la fille du roi Hérode Agrippa. C'était la petite fille d'Hérode le Grand, celui qui a fait tuer les enfants de Bethléem. Drusille était une vraie princesse. Mais vous imaginez un peu son éducation dans une telle famille. La richesse, les intrigues, le pouvoir qui corrompt tout. Là aussi, l'histoire profane nous apprend quelque chose sur sa vie. C'est Flavius Joseph qui nous renseigne là-dessus. À l'âge de 6 ans, Drusille, elle était déjà fiancée au fils d'un roi étranger. Mais les fiançailles sont rompues parce que son prince charmant refuse de se convertir au judaïsme. Mais le deuxième essai sera le bon. Et un peu plus tard, elle épousera donc un nommé Agis, roi d'Émèse. Et c'est Agis, roi d'Émèse, qu'elle va ensuite quitter pour rejoindre Félix. Drusille était réputée pour sa grande beauté. Mais elle était toujours sous la coupe d'une sœur, Bérénice, qui la persécutait. Tout n'était pas très beau dans le palais des rois. On peut donc aisément imaginer ce qui s'est passé dans la tête de Drusille lorsque Simon le Cypriote est venu la voir pour lui proposer de refaire sa vie avec Félix. Elle n'a pas hésité à quitter son mari pour échapper aux brimades de sa sœur, pour se refaire une vie. Drusille, elle a choisi la liberté. Son éducation juive, elle l'a balancée par la fenêtre au profit d'une relation adultère avec un païen. Je vous le disais, Félix et Drusille, un couple moderne, tous deux volontaires dans leur choix, sans scrupules. À moins que Drusille, elle, n'ait eu quelques doutes. La chance de leur vie, la chance de leur vie, c'est de rencontrer l'apôtre Paul, citoyen romain, bien au fait de la culture et de la religion juive, un homme cultivé, un homme de caractère, Paul qui pouvait leur parler d'égal à égal. Paul, quand il parle à Félix, remarquez qu'il ne passe pas la pommade. Il se félicite d'être jugé par un homme d'expérience, verset 10. Mais il ne parle pas de la paix parfaite, des réformes, de la sage administration de ce petit ange de Félix. Il ne flatte personne. La parole de Paul, y compris en présence des puissants, est une parole qui est vraie, une parole qui est droite. Comment est-ce que Félix voit cet homme? Eh bien, je crois qu'il est d'abord impressionné par sa résistance morale. Paul n'a pas peur du grand prêtre Ananias. Sa parole est sans détour. Cet homme seul a des arguments plus puissants qu'un avocat professionnel entouré des représentants de la cour du grand prêtre. Et ça, ça sort de l'ordinaire. Et Félix en parle à sa femme. Il est intrigué par ces histoires que Paul raconte. Ce Jésus ressuscité. Et si on fouillait dans les archives laissées par Ponce Pilate, à supposer qu'on puisse les trouver, ces archives, 27 ans plus tard. Pourquoi est-ce que Drusille veut voir Paul, verset 24. Est-ce qu'elle s'ennuie? Belle femme, désœuvrée? Est-ce l'homme, le mâle qu'elle veut rencontrer? Celui qui a réussi à impressionner sa brute de mari? Est-ce qu'elle se dit, mais moi aussi j'ai eu maille à partir avec les autorités religieuses. Moi aussi on me traite de traître. Ce Paul a peut-être un début de réponse aux questions que je me pose, ou peut-être qu'il a des questions ou réponses que je pense avoir. On ne sait pas directement ses raisons, mais il est clair que pour une femme comme Drusille, que pour un homme comme Félix, rencontrer Paul, c'était une chance unique, une chance que Dieu leur donne. Un envoyé de Dieu sur leur route. Une rencontre qui pourrait changer leur vie. Les entretiens ne tournent pas autour des accusations du Sanhédrin à son encontre. Paul ne parle pas de ça. Ça n'intéresse pas de répondre à ce dont toi on l'accuse. Paul, ce qu'il veut faire et ce qu'il fait, c'est de parler de la foi en Jésus-Christ et de la formidable espérance qui s'y rattache, verset 14. La foi en Jésus et l'espérance qui se rattache à la foi. Avec Félix, vu son arrière-plan païen, on peut imaginer que Paul a dû parler du Dieu créateur, du Dieu unique, du Dieu invisible, du Dieu éternel. Avec Drusille, je suis sûr que Paul a parlé de la loi et des prophètes. Je suis sûr qu'il est venu sur son terrain, le terrain juif. La loi et les prophètes, qui dès le départ annonçaient la venue d'un sauveur, préparaient la venue de ce sauveur, reconnaissaient la venue de ce sauveur. Avec tous les deux, il peut parler de la vie de Jésus. Il peut parler de la mort de Jésus. Il peut parler de sa résurrection d'entre les morts. Il peut parler du don du Saint-Esprit. Il peut parler du salut. Il peut parler de la grâce qui relève, de la grâce qui donne du sens, de la grâce qui donne des ailes. Quel message merveilleux il pouvait partager avec eux. Et ce message, Félix, nous dit le texte, a voulu l'entendre à plusieurs reprises, versets 26 et verset 27. Et si Paul disait vrai ? Et si Paul disait vrai ? Et si ces histoires autour de Jésus, du salut, de la grâce, et si tout ça c'était vrai ? C'est donc l'occasion ou jamais pour que ce couple moderne se convertisse. Mais il y a un hic. Il y a un hic. Et le hic n'est pas intellectuel. Le hic est moral. Paul aborde trois sujets qui font peur à Félix. Verset 25, la manière juste de vivre, la maîtrise de soi et le jugement à venir. Trois sujets. L'une de nos traductions modernes ne parle pas de la maîtrise de soi, mais de la maîtrise de ses instincts. Et c'est bien là où le bât blesse. La maîtrise de soi, la maîtrise de ses instincts. Le bât ne blesse pas sur la question de savoir s'il y a un seul Dieu ou plusieurs dieux. Le bât ne blesse pas sur le problème du Messie qui aurait dû régner et qui en fait a été rejeté. Parce que Paul avait des réponses à ces questions, il avait des développements cohérents qui présentaient dans le détail l'évangile du salut. Félix achoppe sur la question de la repentance. Félix ne veut pas changer de vie. Il ne veut pas changer de vie. Dans la vie de beaucoup de personnes, il arrive un moment où ils savent que l'Évangile est vrai. Un moment où ils comprennent que le salut s'adresse à eux. Mais ils ne veulent pas changer de vie. S'aligner sur la vérité, ça coûte trop cher. Il vaut mieux vivre dans l'illusion, il vaut mieux sombrer avec ce que l'on croit plutôt que de se remettre en question. Comprenez bien que je ne parle pas de ceux qui ne savent pas. Je ne parle même pas de ceux qui ne comprennent pas. Je parle là de ceux qui savent, de ceux qui comprennent et qui se cabrent, qui se bloquent, qui mettent les pieds au mur. Plus tard, ces gens-là se trouveront des justifications intellectuelles ou des justifications pratiques, mais dans le fond, la résistance est morale. Dans le fond, la résistance est dans le cœur. Pas dans la tête, dans le cœur. Quand on vient à Jésus-Christ, il y a forcément une mise en règle de sa vie passée. On se remet en question, on se repent de certaines choses, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on a mal fait. On regrette sincèrement, on demande pardon à Dieu et on se recommande à sa grâce qui vient couvrir notre péché. Mais quand Félix prend conscience de tout ce qu'il a fait de mal, il panique. Il ne veut pas le reconnaître. De plus, nous disons que la repentance s'accompagne dans toute la mesure du possible d'une remise en ordre. Félix, bien sûr, ne pouvait pas faire revenir à la vie les morts qu'il avait sur la conscience. Mais il y avait certainement des injustices auxquelles il pouvait remédier, même s'il aurait dû prendre son temps, même si peut-être il avait perdu sa place de gouverneur. Mais Félix a peur de mettre en règle sa vie passée. Quand on vient à Jésus-Christ, il y a donc le passé à régler, et puis il y a le présent à régler. Endosser d'autres valeurs, travailler autrement, gouverner autrement, renoncer à la violence, renoncer au pot de vin, renoncer au mensonge, prendre ses distances par rapport à l'idolâtrie. Et Drusille, fallait-il la garder ou non? Et puis les aventures, les prostituées, les orgies, il fallait mettre une croix sur cela. Ou plutôt, il fallait mettre la croix sur cela. Le passé à régler, le présent à régler, l'avenir à regarder autrement. Une carrière au service de Jésus-Christ d'abord, au service des hommes ensuite, et au service de Bibi en dernier lieu. Où Christ est roi de tout, ou il n'est pas roi du tout. Moi, ça ne m'étonne pas tant que Félix ait reculé. Si seulement cet homme-là avait pu se convertir jeune, si seulement il avait pu se tourner vers Jésus-Christ avant d'avoir fait toutes ces énormités, avant de s'être compliqué l'existence avec un mariage boiteux, avec une carrière malhonnête. Vous savez, c'est une grâce de trouver Jésus-Christ quand on est jeune. C'est précieux de connaître Jésus quand on a 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, qu'on est devant les choix principaux de sa vie. Et que ce qui nous guide, ce n'est pas l'esprit de ce monde qui va dans le mur, mais le Seigneur Jésus. Si seulement il avait pu se convertir jeune. C'est une grâce de trouver Christ quand on est jeune. C'est une grâce de pouvoir conformer sa vie aux attentes du Seigneur quand on est jeune. C'est un honneur et c'est un plaisir. On s'évite bien des ennuis plus tard. Mais il n'est jamais trop tard. Pendant 2 années entières, verset 27, Félix est resté comme assis entre 2 chaises, ni pour ni contre, bien au contraire. Il écoutait Paul, il le renvoyait en prison, il manœuvrait pour lui soutirer de l'argent, il lorgnait du côté des prêtres juifs, soucieux de s'accorder leur bonne grâce. Il pesait le pour et le contre sur le plan politique, financier, pratique. 2 ans. Il a pu choisir le bien. Il en a eu l'occasion à de multiples reprises. Il a pu choisir la vie, il en a eu l'occasion à de multiples reprises. Et puis, Paul en personne, aurait été là pour le conseiller, pour l'accompagner, pour l'encourager. Le Saint-Esprit l'aurait éclairé pas à pas, au fur et à mesure de sa vie nouvelle. Il aurait pu réaliser ces mots. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il aurait pu réaliser ça. Mais non, Félix y a cru sans y croire. Félix a cru, mais sans accepter que sa vie devait changer. Félix et Drusille. C'était la chance de votre vie. Et vous l'avez gâchée. Le ballon, vous aviez qu'à l'attraper. Mais vous avez couru après des bulles. Vous êtes passé à côté. Vous saviez que l'Évangile était vrai. Vous saviez que l'Évangile était pour vous. Mais vous ne vouliez pas changer de vie. La vie droite, la maîtrise de soi, une longue vue sur le sens de la vie, l'espérance qui dépasse l'ici et le maintenant, tout cela, ça vous a fait peur. Mais vous auriez dû avoir peur plus tôt du jugement à venir, parce que de cela aussi, Paul a parlé avec vous. Je conclue. Félix et Drusille, c'est une histoire qui se termine tristement. En l'an 60, Félix a donc été rappelé à Rome pour répondre de ses crimes et il a été condamné pour haute trahison et exécuté. Drusille est morte, elle, en l'an 79, lors d'une éruption du Vésuve à Pompéi. On ne sait pas s'ils ont eu d'autres occasions d'entendre l'Évangile. Chrétiens, non-chrétiens, si leur histoire vous fait réfléchir, vous savez ce que vous avez à faire. N'attendez pas demain pour le faire. Ne dites surtout pas à Dieu, on en reparlera un jour. Parlez-lui-en maintenant. On est dans le même bateau. Vous savez probablement, comme je sais moi pour ma vie, qu'il y a des choses qui ne devraient pas exister. Des attitudes, des positions, des paroles, des actes contraires à la sainteté de Dieu. Des choses peut-être pas aussi graves que celles que l'on pouvait reprocher à Félix et Drusille. Peut-être que si. Peut-être plus graves même. Moi, j'aimerais juste vous encourager à vous mettre en règle avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Avant que votre âme ne vous soit redemandée, avant que des circonstances de la vie ne vous éloignent peut-être définitivement de lui. Nous avons affaire à un Dieu dont les bras, dont le cœur est grand ouvert. Sa grâce est confondante. Il pardonne. Il donne une vie nouvelle. Il redonne du sens. Il offre une formidable espérance. Peut-être que vous vous débattez avec ces tentations qui vous assaillent, qui prennent trop souvent le dessus. Vous savez, ces choses qui nous enferment dans la vie. Peut-être même que vous vous sentez dépassé par la situation. Peut-être que vous êtes incapable de soutenir la lutte parce que la vie, et nous devons le dire, la vie est tellement difficile et les chrétiens ne sont pas exemptés des difficultés. Comment on fait ? Je lis Hébreux 4, les versets 14 à 16. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Approchez-vous de Dieu. Il est là pour nous accueillir, pour nous pardonner, pour nous relever et pour nous accompagner. L'apôtre Paul, celui que Félix et Drusille ont entendu, a écrit encore ceci en Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle. Rien de moins. Une formidable espérance à saisir maintenant. Je m'arrête là, en vous invitant à ne pas remettre à demain ce que vous savez pouvoir faire ce matin. Que notre Dieu vous bénisse et vous réjouisse. Amen.
Je vous propose de rester dans le recueillement, de rester assis. Nous allons faire un chant. Et je vous propose que ce chant soit plutôt prié que chanté à pleine voix. Amen. Ça fait du bien, il est magnifique ce chant. Je vous propose qu'on entre dans un temps de Sainte-Cène et Bernard va nous y introduire.
Comme chaque dimanche, nous célébrons la Cène en mémoire de ce que Jésus a vécu avec ses disciples. Imaginons la Cène. Jésus est avec ses disciples autour d'une table pour le repas de la Pâque. Mais il va nous surprendre. Ils ont été avec lui durant les 3 ans de son ministère. Ils ont beaucoup appris de lui et de la volonté de Dieu, son Père. Peut-être se considèrent-ils comme ses meilleurs disciples, ceux qui peuvent prétendre à une place de choix dans le royaume qu'il est venu annoncer. Pourtant, Jésus les connaît. Il sait que Judas va le trahir. Il sait que Pierre va le renier. Certains, dans leur orgueil, s'étaient demandé qui était le plus grand. Plus tard, Paul, qui fait mémoire de ce repas dans sa lettre aux Corinthiens, confesse qu'il était un ennemi du Christ, persécutant ceux qui croyaient en lui. Jésus, ce soir-là, les accueille tous à sa table. Cette table, ce pain, ce vin, ne les accuse pas. Elle révèle ce que Jésus a pris sur lui, en livrant son corps et en versant son sang. Cette table nous rappelle que nous ne sommes pas meilleurs que les disciples. Reconnaissons humblement que nous avons toujours besoin de Jésus. C'est l'Esprit qui nous donne cette conviction et nous conduit à la repentance. Ne résistons pas. Quel que soit notre passé ou notre état présent, Jésus prend sur lui notre péché, nous libère de notre esclavage, nous relève et nous ouvre à une vie nouvelle. Dans l'Épître aux Hébreux qui a été cité tout à l'heure, nous lisons « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Devant cette table dressée, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun.
Nous lirons l'institution de la Sainte Cène. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. » Toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Nous prions. Nous nous courbons devant toi, Seigneur. Avec reconnaissance, parce que tu as donné ta vie pour nous. Parce que tu as subi la malédiction pour que jamais nous ne la subissions. Parce qu'en échange, tu nous as donné ta plus grande bénédiction. Nous mesurons le privilège qui est le nôtre de pouvoir nous approcher de cette table et de nous souvenir de ton corps brisé, de ton sang versé pour notre salut. Reçois notre reconnaissance en Jésus. Amen.
Alors nous aurons un moment de prière communautaire et pendant ce moment, nous ferons la distribution. Donc je rappelle qu'à l'extérieur, il y a des petites coupelles, il y a le vin. À l'intérieur, les gobelets roses, c'est du jus de raisin. Et puis si vous souhaitez la coupe, vous n'avez qu'à la demander. Vous n'avez qu'à lever la main. Donc Seigneur Jésus, nous voulons nous remettre aussi dans ce moment de prière, dans ce moment de sainte cène, dans ce moment aussi de saisir ces ballons, de saisir ta parole. Et Seigneur, nous voulons que tu bénisses cette parole, que tu bénisses ce temps de sainte cène. C'est vrai Seigneur, nous sommes tous différents, nous vivons des choses différentes. Mais nous voulons t'entendre, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons être en ta présence, Seigneur. C'est ça qui est, ce qui se passe après, c'est autre chose, mais nous voulons d'abord être en ta présence. Alors Seigneur, rejoins-nous pendant ce temps de sainte cène aussi. Amen.
Choisis au seuil de notre vie, on fait le bon choix. Et j'aimerais bénir tous les jeunes parmi nous qui ont fait ce pas, qui ont décidé de marcher selon ta volonté. Mais Seigneur, j'aimerais aussi te dire merci de m'avoir donné cette deuxième chance de pouvoir repartir à zéro, Seigneur, et de recevoir le pardon pour ma vie passée, Seigneur, grâce à ta croix, et de me donner cette vie éternelle qui commence déjà maintenant. Seigneur, j'aimerais te louer, t'adorer et te bénir. Dans le précieux nom de Jésus, à qui je dois tout. Amen.
perdu, mais tu as ce plan de nous racheter par ton fils. Nous n'avons jamais assez de louer pour cela. C'est vrai, accepte ces pauvres mots pour te les dire et te louer pour cela. Amen.
Seigneur, comme Paul qui a saisi des occasions pour parler à Félix et José, j'aimerais prier pour que nous, qui savons qui tu es, puissions aussi saisir les occasions qui nous sont présentées pour parler de toi et qu'on puisse être des véhicules pour que les autres puissent saisir des ballons, pour qu'ils soufflent, aiguiller ces ballons et ne pas rester indifférents.
Amen. Seigneur, merci pour ceux que tu as mis sur notre chemin et qui nous ont aidés à reconnaître l'allégeance que nous avons. Prions pour qu'à notre tour, que ce soit individuellement, que ce soit toute notre communauté ici à Mérin, qu'à notre tour, nous puissions être aussi sur le chemin que tu nous donnes, une aide pour d'autres, des témoins fidèles pour d'autres de rencontres. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Je vous propose que nous concluions ce temps de Sainte Cène par le Notre Père. Alors je vous propose qu'on se lève pour le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous propose de rester debout, parce que nous allons enchaîner avec l'offrande. Et nous aurons le chant numéro enfin je ne sais pas, en Jésus seul.
Par le geste de cette offrande, nous voulons te dire que nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi. Que tu bénisses, Seigneur, cette offrande, qu'elle serve à la gloire et à l'avancement de ton royaume. Qu'elle soit aussi bénédiction pour tous nos frères et sœurs à ton service, ici en Suisse et à l'étranger. Nous te les remettons avec confiance, sachant que tu es fidèle et que tu prends soin d'eux, tout comme tu prends soin de nous jour après jour. Nous te louons et te bénissons. Au nom de Jésus. Amen.
Voilà, maintenant, nous aurons les annonces et je passe le micro à Michel, mais peut-être avant, je tenais juste à féliciter Lorraine parce que c'est son anniversaire. Bravo Lorraine.
Voilà, alors ce vendredi 19 mai, le concert de louanges d'un groupe malgache au CEPOM, au centre paroissial œcuménique, à la cité de Mérin, à 19h. Dimanche prochain, dimanche 21 mai, c'est la sortie des potes du dimanche. Alors, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que ça se passe, c'est le rallye, ils vont participer au rallye de la réforme et que le rendez-vous est à 9h15 à la Treille. Voilà, vous n'êtes pas trop stressés les parents, mais vous recevrez tous les détails par un mail qui vous sera adressé si vous avez inscrit votre enfant pour cette sortie. Et puis, une date plus tardive, plus loin dans l'agenda, dimanche 18 juin, nous aurons la joie de vivre des baptêmes ici. Donc, c'est une date à retenir dans votre agenda déjà. Et puis, plus loin, 14-15 octobre, le week-end de notre église, déjà agendé à la chaux des Crotenay, à vos agendas. Voilà, nouveau site internet, on est dans cette démarche. Le sondage qui vous a été, vous avez reçu un lien par email, le délai c'était jusqu'au 10 mai. On est le 14. D'accord. Vous pouvez encore remplir aujourd'hui. Et puis via l'email, et puis vous pouvez aussi vous approcher de la table de projection à l'arrière de la salle et scanner le QR code qui vous guidera directement vers le sondage, une manière élégante et technique de remplir ce sondage. Et puis, il y a un apéritif après le culte. Alors, bienvenue à chacun. Bon dimanche.
Voilà, donc l'apéritif, c'est aussi en l'honneur de nos invités, donc la famille Anchaud. Donc, allez vers eux, saluez-les bien, je ne sais pas comment on dit, mais que ce soit un moment aussi convivial dans notre église, dans notre famille. Et je crois que c'était vraiment une richesse de les avoir parmi nous aujourd'hui. J'avais encore une annonce. Qu'est-ce que j'oublie? D'habitude, je note tout, mais là, on ne sait plus. En attendant, je vais demander à Philippe de nous rejoindre pour la bénédiction. Oui. Ça y est. Je voulais féliciter toutes les femmes de notre église, toutes les mamans, parce que c'est aujourd'hui la fête des mamans, et je voulais quand même le signaler.
Je propose de vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur, celle qui nous est laissée en conclusion de la très belle lettre aux Éphésiens. Que la paix et l'amour soient donnés aux frères et sœurs avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux et celles qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Amen.